La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à un grand panafricain auquel son pays, le Togo, a rendu cet été un hommage exceptionnel. Ancien secrétaire général de l'OUA, ancien premier ministre du Togo, président de la fondation Pax Africana, Edem Kodjo a reçu les derniers hommages de ses pairs le 19 août dernier à Lomé dans la cathédrale Sacré-Cœur.
Monseigneur Amoussou Diakpa, archevêque émérite de Lomé, au cours de la messe de Requiem, parle du panafricain.
Il s'est évertué à lutter sans cesse pour que les Africains s'emploient à bâtir une Afrique forte et fière.
La dépouille, couverte du drapeau national porté par des gendarmes, est entrée dans la cathédrale où le ministre togolais des Affaires étrangères prend la parole. Robert Doucet parle d'un homme d'excellence qui a accompli ce qu'il entreprend avec passion.
Grandeur et élégance, vision et anticipation, perspicacité et générosité sont entre autres les qualités intrinsèques de la personnalité de l'illustre disparu.
Edem Kodjo, c'est aussi le diplomate, ancien secrétaire général de la défunte organisation de l'unité africaine qui a marqué une génération du continent. Parmi elles, Jean-Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères, arrivé de Brazzaville.
Il a marqué les jeunes étudiants que nous étions à l'époque où il a publié son ouvrage à l'occasion du centenaire justement de la conférence de Berlin. Et cet ouvrage disait que l'Afrique avait été spoliée. Mais l'Afrique se mettra debout. Ce n'était pas des incantations. Comment se mettra-t-elle debout? En s'unissant.
C'est donc à l'unisson et dans la ferveur que la nation et les amis accourus de toute l'Afrique ont accompagné Edem Kodjo à sa dernière demeure. Peter Sassoudo, Bellomé, RFI.
Edem Kodjo avait accordé un entretien inédit à la Marche du Monde en 2013. Entretien que j'ai le plaisir de vous faire entendre aujourd'hui. Nous nous étions rencontrés à Addis Abeba, en Éthiopie. C'était à l'occasion des 50 ans de la création de l'Organisation de l'Unité Africaine, l'OUA, le 23 mai 1963.
La conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement africains indépendants, réunis à Addis Abeba du 21 au 25 mai 1963, considérant les efforts considérables accomplis par le gouvernement impérial de l'Éthiopie pour organiser la première rencontre historique des chefs d'État et de gouvernement africains indépendants, exprime sa profonde gratitude à Sa Majesté impériale, à Haïlé Sélassié Ier, au gouvernement et au peuple d'Éthiopie, dont le rôle déterminant a contribué à la concrétisation de l'unité africaine par la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine.
La création de l'OUA, c'est le triomphe de l'empereur Haïlé Sélassié. C'est lui l'auteur du compromis entre les différents dirigeants africains de l'époque, car tous ne partageaient pas la vision de Kwame Nkrumah, le père fondateur du panafricanisme.
Seulement, et je dis seulement, une Afrique unie, fonctionnant sous un gouvernement d'union, pourra mobiliser vigoureusement les ressources morales et matérielles de chaque pays et le faire de façon efficace et énergique afin de changer rapidement les conditions de vie de nos peuples. Nous devons nous unir afin de réaliser la libération totale de notre continent. Nous avons besoin d'un système de défense commun avec un haut commandement africain pour assurer la stabilité et la sécurité de l'Afrique.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Et pour évoquer le panafricanisme, l'idéologie la plus marquante du XXe siècle en Afrique, j'ai le plaisir de recevoir un homme dont les engagements successifs ont prouvé sa foi en l'Afrique, sa foi en l'unité de l'Afrique, et sa foi en Dieu. Ancien Premier ministre du Togo, fondateur du premier parti d'opposition dans son pays, ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine de 1978 à 1983, catholique engagé dans le dialogue interreligieux, Edem Kodjo est le grand témoin de cette édition spéciale de la Marche du Monde, figure politique et intellectuelle engagée dans la cause du panafricanisme et libre penseur. Bonjour Edem Kodjo.
Bonjour.
Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous ici à Addis Abeba en cette année 2013?
D'abord, je suis heureux de me retrouver ici avec tous ceux qui sont invités pour commémorer le 50e anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine. J'ai de l'espoir mais j'ai aussi des craintes. Des craintes de ne pas finalement voir se concrétiser un certain nombre d'idéaux et d'idées qui me sont chères. Espoir que quelque part, dans la jeunesse africaine, les idées que nous exprimerons ici et que nous avons toujours exprimées ailleurs puissent être entendues et que se lèvent des nouveaux Kwame Nkrumah pour réellement aboutir à la concrétisation de cette unité africaine.
Ma première question n'appelle à vos souvenirs personnels, Edem Kodjo. En 1963, lorsque l'OUA est créée ici, à Addis Abeba, vous êtes un jeune Togolais de 25 ans environ. Comment vivez-vous à ce moment-là, ce moment historique ?
J'étais élève à l'École nationale d'administration de Paris. Nous avions au programme cette année-là l'Afrique, dans le cursus des relations internationales. Nous étions très sensibles et sensibilisés aux idées de Kwame Nkrumah en particulier, qui voulait une Afrique unie du Cap au Caire et de Dakar à Mogadiscio, par exemple. Et nous étions jeunes et donc nous trouvions cette idée généreuse et absolument formidable. Et nous étions prêts à militer pour cette cause-là. Et c'était notre boussole. Et lorsque Cheikh Anta Diop, qui déjà à l'époque travaillait dur sur ce qui allait devenir Nation Négriculture, sa thèse principale, nous étions vraiment déterminés à poursuivre cette œuvre et à faire en sorte que l'Afrique retrouve sa place dans le monde. D'abord sa dignité en tant que continent à part entière, la dignité de ses populations, et aussi sa place dans le monde, parce que nous estimions que l'Afrique avait une place dans le monde qui devait être défendue à tout prix.
Yih, b'Afrika tarik ust, aynatanya m'raf yizo yeminora ou y'Afrika mengist mariochi tarikawi gubaye, sraoun b'char rasabbet bazari ulat, y'gubaye chinin utyat ndiyamir, b'andinat na b'ondimama chinat simyat tababran.
Edem Kodjo, vous avez cité Cheikh Anta Diop, le Sénégalais. Vous venez de citer Kwame Nkrumah, bien sûr, père fondateur du panafricanisme, le Ghanéen. J'aimerais que vous évoquiez pour nous également la figure d'Haïlé Sélassié, qui a su participer à cette réalisation du compromis pour créer l'Organisation de l'Unité africaine.
Haïlé Sélassié, on le connaissait un peu moins que Nkrumah et les autres, on le connaissait comme l'empereur de l'Éthiopie, ce pays millénaire à l'histoire pluriséculaire, qui était le tout premier État constitué d'Afrique, en réalité, avec une très vieille tradition, y compris dans la diplomatie. C'était un État à part entière, l'Éthiopie. Et lorsque Mussolini s'en est pris à l'Éthiopie, qu'il a attaqué l'Éthiopie, vous pensez bien que ça a été une espèce de tollé dans le monde entier et l'empereur qui a dû quitter son trône pour aller s'installer en Europe était considéré par certains des panafricanistes de l'heure comme un demi-dieu. On verra d'ailleurs toutes les implications avec le mouvement Rasta. L'empereur était une sorte de dieu vivant et je me rappelle que Benito Sylvain, un des grands-pères du panafricanisme, se présentait lui-même comme le garde-corps de l'empereur et Haïlé Sélassié.
Benito Sylvain, laïcien.
Laïcien. Donc c'était une figure emblématique pour nous, et en plus une figure auréolée de mystère, parce que l'empereur était assimilé par ses propres concitoyens à un dieu vivant. Et donc on était très impressionnés par le rôle que cet homme a joué. L'Éthiopie n'était pas un pays neutre pour nous. C'était quelque chose qui nous prenait au cœur. Et l'empereur avait un tel prestige sur ses autres collègues qu'il a pu réussir cette espèce de médiation qui a permis la constitution de l'Organisation de l'Unité africaine.
Edem Kodjo, vous faites partie de cette génération de panafricains qui a été formée dans la lutte pour les indépendances. Est-ce que c'est cette expérience qui a fait de vous un panafricain ?
Panafricain, panafricaniste, c'est sûr que mon passé de militant au sein de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la fameuse FEANF, qui était le creuset où l'on se retrouvait tous, qu'on soit Togolais, Dahoméens, Congolais, Sénégalais, On se retrouvait tous dans cette association et on militait pour deux objectifs précis, l'indépendance pour l'Afrique et l'unité africaine. Même si une bonne partie de l'Afrique, dès 1960, était devenue indépendante, une énorme partie du même continent ne l'était pas encore. Et pour nous, il fallait que l'Afrique fût indépendante du premier pays jusqu'au dernier, que le continent soit dégagé de toute servitude et de toute contrainte. Voilà ce qui nous animait, nous les jeunes.
Edem Kodjo, donc, votre rêve se réalise à votre tour. Vous devenez secrétaire général de l'OUA. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti?
Ah, c'est quelque chose d'immense. Parce que, imaginez-vous, un sommet de l'OUA particulièrement difficile, présidé par Jafar El-Noumeri, le président du Soudan d'alors. Et l'élection du secrétaire général qui commence à 6 heures du matin après toute une nuit sans sommeil. Et le candidat dans les couloirs attendant des heures et des heures sa nomination. À la fin, fatigué, je suis rentré à mon hôtel et je me suis mis au lit sans d'ailleurs trouver le sommeil. Lorsque j'entends à un certain moment tambouriner fortement à ma porte, ce sont mes collaborateurs qui me disent « Eh bien, monsieur le ministre, vous avez été élu secrétaire général. » Je croyais à peine, j'ai dû remettre mon costume à toute allure, foncer à la salle de conférence pour pouvoir aller prêter serment devant les chefs d'État qui étaient encore rassemblés dans la salle.
Monsieur Kodjo, nouveau secrétaire général de l'OUA, parle de son rôle à la tête de l'organisation et des orientations qu'il convient de donner à l'organisation de l'unité africaine.
Tout d'abord, vous me permettrez d'avoir une pensée pour les chefs d'État et de gouvernement qui ont bien voulu me porter à la tête de cette organisation. Une mission qui n'est pas simple, et je crois que mes premières impressions sont celles de quelqu'un qui quitte des fonctions difficiles pour des fonctions encore plus difficiles. Ceci étant, je pense que mon rôle en tant que secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, va être en rôle d'animateur de toutes les ambitions africaines et de toutes les missions que l'Afrique se propose de poursuivre dans les années à venir.
En parlant de chef d'État, ce n'est pas Yadema qui vous a annoncé la nouvelle parce qu'il vous a beaucoup soutenu.
Yadema m'a soutenu dès le départ, sinon il n'aurait pas accepté de présenter ma candidature. Il est vrai qu'il a subi aussi, il faut le dire, la pression de quelques pays, dont le Nigeria, qui voulait absolument me voir prendre l'Organisation de l'Unité africaine, parce qu'ils m'ont vu déjà à l'œuvre lors de la création de la CDEAO. Et pour eux, j'étais, en particulier pour le Nigeria, j'étais un candidat idéal, d'autant que plusieurs pays francophones, le Sénégal, le président Senghor, y est allé de toute sa personnalité, de tout son poids. Et finalement, j'ai pu décrocher la timbale, une espèce de rêve de gosse qui se réalise.
Et Dame Kodjo, vous avez d'ailleurs écrit plusieurs fois et dit plusieurs fois que ça a été la plus excitante et exaltante période de votre vie. Alors pour quelle raison? Et sans fausse modestie, quelle est votre plus grande réussite? Vous inquiétez pas, après je vous rappellerai aussi votre peut-être plus grand échec de votre point de vue.
Moi, je crois que c'est la meilleure fonction qui existe. Pour un Africain panafricaniste, être secrétaire général de l'OUA ou être aujourd'hui président de la Commission de l'Union africaine, c'est la meilleure des fonctions. Là, on est en mesure de faire quelque chose pour le continent africain. On sent le continent africain sur ses épaules. Et on se dit, quels que soient les textes, quelles que soient les difficultés qui vont joncher le chemin, eh bien, nous allons aller de l'avant parce qu'il y va de l'intérêt de l'Afrique. Alors, ma plus grande réussite, je ne sais pas si c'est dans la méthode que j'ai adoptée pour essayer d'aller toujours de l'avant, ou si c'est dans les résultats, comme la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est aujourd'hui devenue quelque chose d'incontournable, mais qui en 79, lorsque l'idée était lancée, était quelque chose d'abominable aux yeux de quelques leaders africains. Alors le débat était chaud, parce que tous les États qui se disaient progressistes, face aux États qu'on disait modérés, ont perçu l'affaire comme une affaire de l'Occident essayant de nous dicter sa loi. Et ils ont donc décidé de tout faire pour que la conception des droits de l'homme ne fût point une conception de type occidental tout court. D'où l'intervention de Sékou Touré, je me rappelle, demandant qu'on ajoute au titre de la résolution sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais au-delà de cela, ce que je considérais comme ma plus grande victoire, c'était l'adoption par les chefs d'État et de gouvernement en avril 1980 du fameux plan d'action de Lagos, qui voyait véritablement le développement du continent comme une affaire des Africains pour eux-mêmes et pour la satisfaction des besoins des populations elles-mêmes. Et non pas toujours cette espèce de développement qui consiste à vendre des matières premières, à avoir des devises avec lesquelles on achète d'autres produits, y compris de la nourriture. C'était une espèce de petite révolution keynésienne, en quelque sorte. Ce plan, en définitive, n'a jamais été mis en œuvre comme il faut, mais il sous-tend aujourd'hui toute la documentation, toute l'idéologie et même les réalisations de l'économie africaine. On ne peut plus concevoir une économie dirigée vers l'extérieur, pour l'extérieur, et croire qu'on peut s'assurer un développement de cette nature.
L'ancienne colonie espagnole est partagée à Madrid entre le Maroc et la Mauritanie. Hassan II veut en faire une province de son pays, malgré les maquisards du Front Polisario qui veulent, eux, l'indépendance. Grâce à une série de murs de défense, grâce à une marche verte de 350 000 Marocains, grâce à un corps expéditionnaire estimé à 100 000 hommes, Rabat réussit à contenir les maquisards en dehors du Sahara utile et à reprendre l'exploitation des mines d'un phosphate riche en uranium. Qu'importe dès lors si dès 1976, avec le soutien actif de l'Algérie et de la Libye, le Polisario a proclamé une république arabe, sahraoui et démocratique de 100 000 habitants. Cette république est aujourd'hui reconnue par 70 pays. En 1980, la guerre tournera définitivement à l'avantage des Marocains. À partir de 1981, alors que les combats continuent, les négociations s'amorcent indirectement entre les deux belligérants via la diplomatie de l'Organisation de l'Unité africaine et de l'ONU.
Edem Kodjo, parlons également des sujets qui fâchent. Pendant votre mandat, 1978-1983, en tant que secrétaire général de l'OUA, il y a évidemment cette crise autour de la reconnaissance du Sahara occidental et qui, du coup, a pour conséquence la sortie du Maroc de l'OUA en avril 82 sous votre présidence. C'est un gros clash à l'époque. Hein.
D'abord, ce n'est pas en avril 82. Et ce sera plus tard, en 84, que le Maroc sera effectivement sorti. Enfin, la décision a été prise en février 1982, lorsque le secrétaire général que je suis a été assailli par les demandes justifiées du Front Polisario, qui avait été reconnu comme entité étatique par plus des deux tiers des États membres de l'Union africaine. Moi, je ne suis pas du tout fâché d'avoir fait ce travail. Ce n'était pas moi qui décidais de tout cela. Moi, je traduisais la volonté exprimée par les États membres. Si les États membres n'avaient pas estimé, dans leur plus grande majorité, que la RASD était un État, ils ne viendraient à l'idée d'aucun secrétaire général de faire cela. Le Maroc est un pays important en Afrique. Voilà. J'avais de très bonnes relations avec le roi Hassan II jusqu'à cette affaire de la crise de l'OUA. Pourquoi depuis 1982, nous sommes en 2013, cette question est toujours là?
Justement, Edem Kodjo, 30 ans après, alors que l'OUA fête les 50 ans de sa création, le Maroc est un grand absent aujourd'hui à Addis Abeba, alors que le Maroc a une attitude panafricaniste en quelque sorte, a beaucoup de relations avec les pays africains.
Il ne faut jamais oublier que d'ailleurs, le grand-père de Mohamed VI, le roi Mohamed V, est un des membres éminents du groupe de 10 de Casablanca, c'est-à-dire ce groupe de chefs d'État qui ont apporté une contribution essentielle à la création de l'Union africaine. Donc personne ne peut se réjouir de voir le pays de Mohamed V en dehors de l'organisation de l'unité africaine.
Vous invitez Mohamed VI, son petit-fils, à revenir?
Bien évidemment, je l'invite à revenir parce que je trouve qu'ils peuvent continuer à défendre leur cause, comme d'autres partis peuvent continuer à défendre leur cause dans l'organisation. Parce que partout où je vais, je vois des coopérants marocains. Je comprends mal que l'on puisse en même temps déployer une telle activité diplomatique et rester en dehors de la grande assemblée des fils d'Afrique.
Suite de la marche du monde enregistrée à Addis Abeba à l'occasion des 50 ans de l'OUA, l'organisation de l'unité africaine, une unité chantée par Bob Marley et espérée par les citoyens du continent. Les Africains rêvent de circuler librement, mais leur chef d'État ne semble pas encore acquis à cette cause panafricaniste. Pour évoquer le panafricanisme et la renaissance africaine, puisque c'est le thème du 21e sommet de l'unité africaine, l'UA, qui a succédé à l'ancienne OUA, nous retrouvons notre invité, notre grand témoin, Edem Kodjo, ancien secrétaire de l'OUA de 1978 à 1983 et intellectuel engagé pour la cause du panafricanisme, comme il n'a cessé de l'écrire dans ses livres. Africa, united, unite for the benefit of our people, 'cause we're moving. Edem Kodjo, la voix de Bob Marley, icône rasta et militant du panafricanisme, est-elle précieuse à la cause qui vous est chère?
Oui, bien sûr. Elle est très précieuse parce qu'elle est en plus, elle vient des profondeurs. Elle a l'accent de la sincérité et de la détermination. Pour nous, c'est une icône, Bob Marley. Pas seulement au plan musical, mais au plan de tout ce qu'il représente. Il me rappelle toujours Marcus Garvey, Bob Marley, dans un autre ancêtre du panafricanisme. J'ai en direction d'ailleurs d'abord de la musique de cette génération composée de Bob Marley, Jimmy Cliff. Ce sont des musiciens que j'ai toujours adoré, que je continue d'écouter avec beaucoup de joie et de sentiments bons.
Edem Kodjo, alors si nous avons évoqué la figure des pères fondateurs et votre expérience de secrétaire de l'OUA, j'aimerais que nous poursuivions cette édition spéciale de la Marche du Monde ici à Addis Abeba en feuilletant les livres que vous avez écrits. Alors écrire, lire, ça reste d'abord pour vous une activité quotidienne, Edem Kodjo?
Absolument, je ne me vois pas me déplacer sans un livre. Et dans l'avion, j'ai toujours les yeux plongés, je suis toujours plongé dans la lecture d'un livre. Je regarde très peu de films et de spectacles dans l'avion. Je m'enfonce dans un livre et je ne souhaite pas avoir comme voisin de gauche ou de droite, quelqu'un qui va m'importuner alors que j'ai envie de lire mon livre.
Aimé Césaire vous a beaucoup marqué avec ses écrits sur la négritude. C'est d'ailleurs les 100 ans cette année de sa naissance.
Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est le grand chantre, celui qui a poussé le grand cri nègre, comme il dit lui-même. Et ce cri qui retentit encore, il a été notre maître à tous, Aimé Césaire. Un maître totalement incontournable.
En 1985, votre premier livre, « Et demain l'Afrique », défend un nouveau concept, celui du panafricanisme rationalisé. Oui. Est-ce que ça signifie, Edem Kodjo, que Nkrumah était un doux rêveur?
Non, pas du tout. Alors, le panafricanisme rationalisé, ce n'est pas pour vouer aux gémonies le panafricanisme qualifié de rêveur de Kwame Nkrumah. Moi, je suis un disciple de Kwame Nkrumah, je le revendique hautement. Mais pour proposer peut-être des modalités d'action en vue de la réalisation de ce panafricanisme. Et je pensais que si nous pouvions avoir des États autour desquels, sur le continent, que ce soit au nord, à l'est, à l'ouest, au centre et au sud, des États autour desquels on se décide à organiser des fédérations, ce moment-là, on aurait fait faire un grand pas à l'idée unitaire de Kwame Nkrumah. Pour moi, la coopération interétatique ne suffit pas. Pour moi, arriver en disant on va coordonner nos points de vue, on va avoir une position unique face aux Nations Unies ou face à telle problématique mondiale, ça ne me suffit pas. Je ne m'en contente pas. Et je cherche par tous les moyens à faire avancer cette marche que nous poursuivons vers la réalisation des idéaux de Kwame Nkrumah.
Alors justement, dès 1985, Edem Kodjo, vous décrivez deux problèmes majeurs, la concentration des pouvoirs et aussi le fossé entre les élites africaines et la réalité quotidienne des Africains. Vous remettez notamment en question le parti unique, mais évidemment on est bien avant les années 90.
C'est exact que dans un chapitre demeuré célèbre du livre qui s'appelle « Le despotisme obscur », moi qui ai connu le parti unique de l'intérieur, puisque j'y ai été même très impliqué dans l'organisation du parti unique, j'ai vu d'expérience ce que l'on peut rencontrer de détestable dans un système comme celui-là, où la sycophantocratie, c'est-à-dire la république des sycophantes, on jette des louanges au chef pour obtenir des faveurs, faisait figure de règles et de doctrines. Donc, le fond de ce problème était de tout faire pour que l'Afrique, libérée politiquement, soit libérée pratiquement et concrètement dans la vie de tous les jours, que les citoyens africains soient libres en eux-mêmes.
Edem Kodjo, vous invitez également les Africains à se méfier des fausses valeurs, argent, accumulation matérielle, idolâtrie de la réussite par la possession. Est-ce que c'est aussi le croyant qui s'exprime, le chrétien que vous êtes?
Je dirais peut-être bien, parce que ce que l'on est se révèle toujours au détour des phrases que l'on prononce et des idées que l'on émet, ce que l'on est profondément. Mais je ne retirerai pas une seule virgule à ce qui a été écrit dans cette phrase-là. Ce n'est pas qu'il y ait une détestation de l'argent. Il faut bien rentrer dans l'ère contemporaine, faire en sorte que des investissements soient effectués sur le continent, que le continent se développe. Mais j'estime aussi qu'il faut un développement axé sur des valeurs. Et en l'absence d'un développement axé sur des valeurs, eh bien, on a une espèce de civilisation des choses et du matériel qui finalement laisse l'individu plus pauvre qu'il ne l'était. Donc pour moi, ce problème des valeurs est essentiel et je le développe de livre en livre.
Notamment la valeur de la solidarité.
Les valeurs de solidarité, les valeurs de la fraternité, ne pas concevoir le développement qu'une affaire solitaire. Tenez, aujourd'hui tout le monde se félicite que sur le continent africain, on ait des taux de croissance de l'ordre de 10% dans plusieurs pays. Mais en même temps, on se rend compte que le chômage n'a pas cessé d'augmenter, que les maladies sont toujours là, le paludisme n'a pas été vaincu, que les pauvres sont toujours pauvres. Et ça, ce n'est pas un développement. J'estime que lorsque nous aurons atteint des taux de croissance très importants, nous ayons à cœur de faire en sorte que ce soit une croissance qui descende de là-haut, qui imbibe le bas et que tout le monde s'y retrouve. Sinon, on n'aura rien fait pour le continent africain.
Valérie Nivelon sur RFI.
En 1988, un deuxième livre, L'Occident du déclin au défi, un pavé dans la mare qui prédit que la domination de l'Occident est loin d'être terminée, pire, que les Africains ne doivent pas compter sur le déclin potentiel pour se retrouver en position dominante. Alors est-ce que vous vouliez ouvrir les yeux des élites africaines sur la réalité du tiers-monde et les pousser finalement à être acteurs et à ne pas attendre justement de récupérer les fruits d'un potentiel déclin de l'Occident? C'est un livre qui est sorti en 88. Quelle en est l'actualité aujourd'hui?
Un vrai pavé dans la mare, vous avez dit. Je sais que beaucoup d'Africains n'ont pas aimé ce livre. Parce que dans la foulée de Demain l'Afrique, ils s'attendaient à voir un turiféraire du continent africain continuer à clamer haut et fort qu'on est les plus beaux, on est les plus grands, on est les plus forts. Et c'est parce qu'on n'était ni les plus beaux, ni les plus grands, ni les plus forts que j'ai senti le besoin de dire aux Africains non, il ne faut pas croire que les choses vont être cela. Moi, je suis très sensible aux réalités géopolitiques. Le premier livre de Demain l'Afrique contenait de nombreuses indications géopolitiques. Mais là, j'ai voulu dire exactement ce que vous avez résumé, à savoir qu'il faut que nous comptions d'abord sur nos propres forces. Et la mise en valeur de nos ressources qui sont abondantes, l'organisation et la méthode pour arriver à la mise en place de ces richesses que nous possédons et à les exploiter comme il faut pour le plus grand bien de tout le monde. Le livre comprend d'ailleurs un certain nombre de choses qui ont été d'une actualité incroyable lors de la guerre du Golfe. On croirait que l'auteur avait tout deviné. La géopolitique mondiale est ce qu'elle est. Et l'Afrique doit être partie prenante de l'ordre international. Aujourd'hui, je considère que l'Afrique n'est pas partie prenante de l'ordre international. Aussi peu.
Until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation.
La crise malienne est là pour nous montrer qu'un pays est en difficulté. On n'est pas capable sur le continent africain de faire face. Il a fallu l'intervention d'un pays fut-il ami extérieur au continent africain pour le faire. Ça doit nous donner à réfléchir. Il n'y a pas de réponse globale à toutes ces affaires. Chacune doit être analysée posément. Souvent, les Africains oublient de penser qu'ils sont du monde. Nous sommes du monde. Et parce que nous sommes du monde, il y a un proverbe chez moi qui dit, si vous mettez des calebasses sur un marigot, ils finissent par se toucher. Nous sommes tous sur le marigot mondial. Et nous finirons toujours par nous toucher d'une façon ou d'une autre. Il faut se mettre en position d'être touché sans dommage. Lorsque vous n'êtes pas en position d'être touché sans dommage, vous avez quelque chose comme la crise de la Libye, vous avez quelque chose comme la crise du Mali, sur lesquelles ma position personnelle est différente selon la crise à examiner. Autant j'estime que dans le Mali, même si le soir dans mon lit, je me dis c'est quand même terrible qu'on ne soit pas arrivé à faire ça, et que ce soit la France qui arrive à le faire, même si je raisonne comme ça, ce qui est juste, ce qui est normal, je considère que ça a été un acte positif, sinon aujourd'hui j'aurais les drapeaux de l'ACMI et de tout ça flottant jusqu'à Bamako. Et ça, je ne le veux pas. Donc, il faut être clair. S'agissant de la crise de Libye, je considère que Kadhafi, après avoir été un panarabiste convaincu, disciple de Nasser, est devenu un panafricaniste convaincu aussi, et qui a fait beaucoup de choses pour le continent africain. Qu'il ait commis des actes dans son parcours personnel en tant que chef d'État de la Libye, qui ait pu apporter la réprobation d'une partie du monde, ça aussi je le concède. Mais la façon dont il a été éliminé est absolument insoutenable et inacceptable. Et en le panafricaniste que je suis, je n'accepte pas qu'on se saisisse d'un homme que nous avons tous vu à la télévision encore vivant, et puis dans les 10 ou 20 secondes après, on nous le montre, il est mort. C'est inacceptable. Donc, mon point de vue n'est pas de globaliser le tout pour dire « Ah oui, en Libye, il y a eu telle intervention, au Mali, on a vu la même intervention, donc il y a une espèce de recolonisation. » Je ne raisonne pas comme ça. Je raisonne au cas par cas et j'essaie d'analyser ce qui y a du bon dans telle ou telle attitude, ce qu'il y a de mauvais dans tel ou tel acte.
Une rose à la boutonnière et son éternel sourire aux lèvres, Nelson Mandela est un homme triomphant. Il entre au Parlement entouré de ses deux vice-présidents, Frédéric de Klerk le blanc, Thabo Mbeki le noir. Mais le premier président noir d'Afrique du Sud, c'est lui, Nelson Mandela. Nelson Mandela rejoint alors l'ancien hôtel de ville du Cap, là où 120 000 personnes l'attendent. L'archevêque Desmond Tutu, excité comme un gamin, dit-il lui-même, chauffe la foule avant le premier discours du nouveau président. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas la victoire d'un parti, mais celle de tout un peuple. La foule acclame son président qui vient de mettre fin démocratiquement à 46 ans d'apartheid. 46 ans pendant lesquels ce premier président noir a passé 27 ans en prison.
Et Dame Kodjo, les années 90, c'est la fin de l'apartheid. C'est une grande victoire également pour l'OUA. Mais l'OUA, finalement, elle reste relativement inopérante face aux conflits internes des nations. Qu'est-ce que le colonel Kadhafi incarne dans ces années 90 et quelle est sa proposition, justement, de renouvellement de l'organisation?
Le colonel Kadhafi, je l'ai déjà dit, il n'est venu au panafricanisme qu'après avoir essayé en vain le panarabisme. Mais une fois qu'il s'est approprié la source panafricaine, il est devenu un panafricaniste convaincu. Il allait beaucoup plus vite que les autres et surtout, il voulait un peu forcer la main à tout le monde. Le problème de l'unification des territoires, c'est un problème compliqué. On peut se lever une armée et aller conquérir le pays voisin. Vous faites un ensemble unitaire et vous êtes dans le panafricanisme. On peut utiliser la diplomatie, convaincre les uns et les autres, se dire nous allons nous mettre ensemble parce que nous pourrions obtenir tel résultat. Donc Kadhafi, qui est historien, n'oubliez pas, avait sans doute dans sa tête la volonté d'aller de l'avant, de convaincre ceux qui pouvaient être convaincus, sinon même de déstabiliser ceux qui ne voulaient pas aller au rythme que lui l'entendait suivre. Donc, compte tenu des manières du président Kadhafi, il ne pouvait que prendre à rebrousse-poil un certain nombre d'autres chefs d'État. Son idée était aussi de faire l'Union africaine avec ceux qui voulaient la faire. Et que ceux qui ne veulent pas avancer restent là où ils sont.
Néanmoins, c'est lui le grand artisan, justement, de la transformation de l'OUA en Union africaine.
Est-ce que c'est vraiment lui tout seul à avoir fait ça? Je crois qu'on était arrivé à un point où on sentait confusément, ici et là, le besoin de faire de l'organisation quelque chose de plus. Maintenant que l'apartheid était éliminé, que les indépendances étaient acquises, on avait ambition de faire quelque chose d'autre. Je découvre que ce quelque chose d'autre même n'est pas suffisant.
Le 36e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine s'est achevé hier par la signature de l'acte constitutif de l'Union africaine. 27 chefs d'État et de gouvernement ont signé ce document, un texte qui doit être maintenant ratifié par au moins 2/3 des États africains avant d'entrer en vigueur. Le colonel Kadhafi, qui est à l'origine de ce projet, a prononcé un discours au cours duquel il a prôné l'abolition des frontières. Écoutons le numéro 1 libyen devant le micro RFI de Madeleine Mukamabano.
Est-ce que vous souhaitez que ça aille beaucoup plus vite qu'aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous aimeriez réaliser le plus rapidement possible?
Il est important qu'on réussisse et assurer l'action. Et le train, on l'a mis sur les rails. Nous pouvons éventuellement accélérer sa vitesse ou la minimiser, diminuer. Il est important qu'il est sur les rails.
Le colonel Kadhafi. Et puis il y a eu cette réaction qui nous est parvenue il y a tout juste une heure maintenant, celle du président du Gabon, Omar Bongo. Comprend certes que cette union de l'Afrique est irréversible, même s'il y a encore beaucoup à faire, dit-il. Seulement, il a mis en garde contre toute perte de souveraineté. Personne, ajoute-t-il, n'acceptera de perdre un pan de sa souveraineté et le Gabon, en la matière, ne négociera rien.
Alors justement, Edam Kodjo, l'Union africaine, c'est mieux, vous le dites, vous l'écrivez, mais ce n'est pas assez. Et vous avez proposé notamment la constitution d'un G4 ou d'un G5 pour créer un noyau solide, économique et social. Le pensez-vous toujours?
Je pense, en mon âme et conscience, que si je pouvais, avec un certain nombre d'amis, convaincre un certain nombre de chefs d'État, pas tous, de reprendre en main la problématique de l'unification du continent. Vous savez, ici, nous avons en Afrique un amalgame d'États moyennement puissants, d'États fragiles et de petits États tapageurs. Il faut arriver à convaincre un certain nombre de chefs d'État en leur disant « nous devons maintenant faire quelque chose de plus ».
Et est-ce qu'il ne faut pas déjà que les chefs d'État mettent la main à la poche et paient leur cotisation, déjà cela?
Oui, ça c'est un autre problème. Ils le peuvent très bien, s'ils ne le font pas, ça c'est parce qu'ils ne le veulent pas, parce que souvent ils ne sont même pas au courant. Il y a des chefs d'État qui arrivent au sommet de l'Union africaine, et ils ne savent même pas qu'ils ont des cotisations en retard. La lourde administration nationale a omis d'ordonnancer ces dépenses qui se trouvent encore dans les coffres du Trésor national. Ils payent leurs cotisations aux Nations Unies, il n'y a aucune raison qu'ils ne payent pas leurs cotisations à l'Union africaine. Ça, c'est une condition minimale. Mais de convaincre un certain nombre de nos responsables qui doivent avoir un rôle de pionnier vis-à-vis des autres pour amener l'ensemble vers quelque chose de plus fort que l'Union africaine elle-même. Parce qu'on ne va pas attendre 100 ans. Dans 100 ans, nous serons tous morts, comme disait Keynes. Dans le long terme, nous serons tous morts. En attendant, nous sommes en vie et nous voulons vivre. Nous n'allons pas attendre que nos arrière-arrière-arrière-arrière-petits-fils en soient au même pas que nous sommes aujourd'hui et nous ne devons pas fixer des objectifs en 50-100 ans. Il faut que dans les 10, 15, 20 années qui viennent, nous ayons réussi quelque chose de déterminant et de décisif.
Alors justement, Edam Kodjo, c'est le message de votre nouveau livre qui s'intitule d'ailleurs, tout comme ce 21e sommet de l'Union africaine, Panafricanisme et Renaissance africaine.
Vous avez fait l'impasse sur un certain nombre de mes écrits et je crois que j'en ai pris à 7 ou 8 livres maintenant qui ont tous cette teneur. L'Afrique, son avenir dans l'unité, les valeurs intrinsèques qui doivent habiter les hommes, qu'ils soient d'Afrique ou d'ailleurs, la responsabilité qui incombe aux générations actuelles de tout mettre en œuvre pour mettre les choses d'aplomb, toutes ces idées se retrouvent en filigrane dans le dernier livre, Panafricanisme et Renaissance africaine. Un petit livre qui vaut la peine d'être lu, je crois.
Un dernier mot, Edem Kodjo, vous disiez on n'a pas le temps d'attendre, il faut que dans les 10 ou dans les 20 ans qui viennent, on ait réussi quelque chose. Un exemple de ce que vous voulez absolument par-dessus tout voir réussir.
Dans l'immédiat, je souhaite qu'on fasse des fédérations à partir des communautés économiques régionales, les fameuses CER. Ces communautés économiques régionales doivent être transformées en États fédéraux. Et si on estime que faire un État fédéral unitaire est impossible, dans l'immédiat, est-ce que c'est véritablement impossible avec tout ce qui a été fait? Je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest que je connais bien, puisque je suis un des membres fondateurs de la CEDEAO. Est-ce qu'on peut réellement dire que c'est impossible de franchir le dernier palier vers une intégration politique de la sous-région? Si cela se faisait, ça contaminerait d'autres régions dans le bon sens, et on verrait s'enclencher un mouvement. Bien sûr, en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, il y a des tas de problèmes. Boko Haram et le terrorisme en Nigeria, le Mali, les problèmes de l'islamisme rampant dans toute cette partie du continent. Mais cela n'empêche pas de voir clair et de s'engager dans une voie qui seule permettrait de faire face réellement à ces adversités. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Et on n'a pas besoin de cela de 50 ans ou de 100 ans pour le faire. Pour la plupart d'entre nous, nous avons une monnaie commune. Il faudrait ajuster cette monnaie avec un certain nombre de monnaies de pays anglophones. Et la marche est ouverte. Il faut foncer, il faut aller de l'avant plutôt que de remettre sans cesse à demain ce qui peut être fait aujourd'hui.
Merci, Edem Kodjo. Donc vous restez un panafricaniste envers et contre tout?
Oui, et je voudrais dire que dans cette optique, j'ai constaté que ce ne sont pas les peuples qui sont contre le panafricanisme. Ce sont nous autres, les élites et les gouvernants. C'est nous qui hésitons, c'est nous qui retardons les échéances. Les peuples enjambent les frontières tous les jours. Les peuples se moquent des frontières. Certains ont leur champ de l'autre côté de la frontière, ils ont de la famille de l'autre côté de la frontière, et ils passent 3 fois par jour une frontière qu'ils ne voient pas, parce que c'est dans le no man's land. Donc c'est nous à faire cette révolution intérieure qui nous concerne, nous les élites et nous les dirigeants. C'est notre responsabilité, nous devons le faire. Les peuples seront toujours d'accord, ils sont naturellement panafricanistes.
Le panafricanisme selon Edem Kodjo, c'était une édition spéciale de La Marche du Monde, réalisée par Sophie Janin, à l'occasion de la disparition de Edem Kodjo en cette année 2020. Retrouvez-nous sur RFI.fr, écrivez-nous sur la page Facebook de l'émission, abonnez-vous au podcast, cette émission, c'est la vôtre.